Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et avant de commencer ce message, je vous invite à prier à nouveau. Saint notre Dieu, nous voulons te remettre chaque fardeau peut-être qui nous pèse encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons vraiment que ta parole nous parle encore aujourd'hui. Nous croyons que ta parole qui est dans cette Bible, elle nous parle aujourd'hui parce que tu es un Dieu vivant et parce que ta parole est vivante et parce que Jésus-Christ est venu il y a à peu près 2000 ans pour nous annoncer que nous étions sauvés de nos péchés par la foi. Et nous voulons encore nous remémorer ce que tu as fait pour nous et voir à quel point ta grâce est suffisante, à quel point ta grâce est magnifique, Seigneur, et surprenante. Seigneur, nous te remettons ce message entre tes mains, que je puisse être un intermédiaire, Seigneur, et que ce message puisse bénir les frères et sœurs. Je te prie en ce nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, peut-être vous vous posez la question, pourquoi Esdras ? En fait, avec Tatiana, on a fini le livre d'Esdras lundi, pendant notre culte de famille. Donc un culte de famille, c'est une fois par semaine, on passe un temps où on loue le Seigneur, on lit la Bible, on partage le sujet de prière. Et Tatiana avait dit, tiens, on propose qu'on lise Esdras. Je fais, pourquoi pas. Et au fur et à mesure qu'on lisait Esdras, on se rendait compte que les situations qui étaient à l'époque, finalement, elles s'appliquent encore à nous aujourd'hui. Et finalement, on peut mettre en pratique ce qui se trouve dans ce livre, encore pour notre société, pour notre vie quotidienne qu'on a encore aujourd'hui. Voilà. Et alors, peut-être que peut-être que c'est un peu nouveau pour vous, peut-être que vous n'avez jamais lu l'Ancien Testament, pour certains d'entre vous. Donc je vais... Ah oui, ok, c'est en bas. Et je vais faire un petit rappel du contexte. Donc en fait, Esdras... ça se déroule entre moins 538 et moins 458 avant Jésus-Christ. Donc c'est un livre qui raconte le retour d'exil du peuple juif qui était en Babylone et qui raconte aussi comment se fait la reconstruction du temple de Jérusalem. Voilà. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait ça se passe après un roi et deux rois. Donc un roi et deux rois, c'était toute la généalogie de rois de Juda, le royaume du sud, et de Israël, le royaume du nord. Et puis dans 1 Chronique et 2 Chroniques, c'était simplement la généalogie, mais uniquement du royaume du sud de Juda. Et ça se termine d'ailleurs avec un édit d'un roi perse qui s'appelle Cyrus, qui qui dit que la reconstruction du temple est possible. Voilà. Et donc la situation aujourd'hui du texte, ça se passe en fait après la déportation de 586. 586, je pense, c'est une date qui revient assez souvent. C'est la fin du royaume de Juda. Donc 586 avant Jésus-Christ, c'est vraiment la date à retenir aussi. Et le livre d'Esdras, il est composé en deux parties. La première partie, un premier retour d'exil qui se fait avec un chef religieux qui s'appelle Zorobabel. Voilà. Et ensuite, les chapitres 7 au chapitre 10, c'est le retour d'exil avec Esdras. Voilà. Et en fait, entre les deux, il se passe 60 ans. Donc à la fin du chapitre 6, ils ont fini de reconstruire le temple, ils font la fête, et 60 ans plus tard, on a Esdras qui prépare son voyage pour venir à Jérusalem, et ça se passe donc 60 ans plus tard. Pour aujourd'hui, le texte qu'on a lu ensemble, qui est assez long, c'est vrai, il se passe en trois parties. Mais avant cela, juste, j'ai entouré ici. Donc là, c'est tout ce qui est en rose, c'est le royaume perse qu'il y avait à l'époque. Et tout ce qui est... Alors, le voyage qui a été fait par Esdras et le peuple d'Israël, c'était de Babylone pour descendre jusqu'à Jérusalem. Il y a un zoom ici qui explique ça. Voilà. Donc c'est là où il y a les croix rouges. Donc pour aujourd'hui, Donc je propose de faire un petit découpage en trois parties. D'abord, on verra dans un premier temps Esdras qui est protégé par la grâce de Dieu. On verra ensuite dans un deuxième temps qu'il y a un roi qui est très favorable à Esdras grâce à Dieu. Et enfin, on verra que, versets 26 à 28, que Esdras rend grâce à Dieu. Voilà. Donc Esdras, il est protégé par la grâce de Dieu. Ça, c'est la première partie. Donc les Israélites, ils ont fini de reconstruire le temple de Jérusalem et 60 ans après arrive ce chapitre 7. Et Esdras, c'était un prêtre, c'était un scribe, c'était un chef religieux qui connaissait très bien la loi de Moïse qui était donnée par Dieu. Donc il connaissait vraiment très bien le Pentateuque, tout ce qui est Genèse, Exode, etc. Et il faut savoir que l'équivalent du rôle de Esdras, spécialiste de la loi, c'est ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament qu'on appelle rabbi ou maître. Donc quand Jésus est appelé par exemple rabbi, ou, voilà, et bien c'est un peu l'équivalent de ce qui a été Esdras 458 ans avant. Voilà. Il faut savoir aussi que Esdras, ça veut dire secours. Esdras, il avait une foi, on lit dans ce passage qu'on vient de lire, hein, qu'il avait une foi exemplaire en Dieu. Et on dit aussi que la main de Dieu reposait sur lui, ça veut dire qu'il avait la bénédiction de Dieu qui était sur lui. Et il mettait en pratique tout ce qu'il avait reçu. Tout ce qu'il lisait, comme il était un scribe, tout ce qu'il lisait dans la parole, dans le Pentateuque, il cherchait à le mettre en pratique. Et en fait, cette foi, nous dit ce texte, ça lui a permis de gagner la faveur du roi, qui n'était pas juif, hein, qui était non-juif, qui était perse, le roi Artaxerxès. Et le roi, le texte nous dit que le roi lui accordait tout ce qu'il demandait. Tout ce qu'il demandait, c'est quand même fort. Il avait probablement, selon les spécialistes, quand j'ai eu les commentaires, une position assez élevée au sein du royaume, auprès du roi. Et en fait, on voit dans ce passage qu'il renonce finalement à cette position élevée auprès du roi pour retourner dans sa terre d'origine et enseigner la loi de Dieu aux Israélites. On voit aussi que Esdras, il est accompagné de tous les membres qui sont nécessaires pour que le service du temple puisse être bien fait, donc que ce soit les prêtres, les lévites, les musiciens, les portiers, les serviteurs, et également des Israélites volontaires qui veulent l'accompagner. Et ce groupe, le texte nous dit, alors c'est compliqué quand c'est écrit en lettres, mais en fait en chiffres, en gros ils sont partis le 1er janvier, jour de l'an, et ils sont arrivés le 1er mai. Voilà. Donc ils ont mis 4 mois pour faire ce voyage qu'on a vu sur la carte tout à l'heure, Babylone-Jérusalem, 4 mois. Alors je me suis un peu amusé à regarder sur Internet et sachez que si aujourd'hui on devait faire le même trajet en voiture, c'est à peu près 14 heures. Donc même pas, on pourrait rouler non-stop pendant une journée, on arriverait. Je vous dis pas à quelle vitesse on roule, hein, ça c'est, voilà. Et en avion, ça serait 3h15. Donc en 3h15, on pourrait faire ce qu'ils ont fait en 4 mois. C'est juste, enfin, voilà, pour vous donner un peu une idée. Et c'est un voyage qui fait 1200 km. Et on voit que ce voyage il s'est passé sans problème parce que la main de Dieu reposait sur Esdras. Et l'expression main de Dieu, on la retrouve beaucoup de fois dans la Bible. On le voit dans Ecclésias 2, verset 24, quand on voit que Dieu pourvoit. On voit aussi ça dans Exode 32, verset 11, avec la main de Dieu qui libère le peuple d'Israël. Et à chaque fois qu'on parle de main de Dieu, et notamment dans ce passage, on parle de la bénédiction de Dieu. Et quelle était la raison pour laquelle Esdras avait été protégé? Le texte nous dit que c'est dû à la foi de Esdras, parce qu'il avait appliqué son cœur à étudier et à enseigner tout ce qu'il avait lu dans la loi de l'Éternel pour l'enseigner aux Israélites. Il avait une foi qu'il avait et qu'il a transmis à d'autres. Il a mis en pratique, en fait, ce qu'il a lu. Et pour nous aujourd'hui, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'on est appelé aussi à avoir une foi exemplaire, notamment devant des non-chrétiens, nos amis, nos collègues, etc. Et des fois, quand on a une foi exemplaire, et ben, dans certains cas, pas tout le temps, on peut gagner leur faveur parce qu'ils réalisent que nous sommes bénis par le plus grand donateur du monde, c'est-à-dire Dieu. Et dans ce texte, c'était Artaxerxès qui a réalisé ça. De plus, notre foi exemplaire, elle nous amène à, elle peut nous amener à être encore plus bénis par le Seigneur et également protégés. Et les personnes de notre entourage peuvent être aussi au bénéfice de cette protection. Quand on dit que Esdras, pendant 4 mois, son voyage s'est passé sans encombre, ce n'est pas seulement lui qui a été protégé, c'était tout le peuple qui était parti avec lui, qui était protégé. Et la grâce de Dieu, encore une fois, lui a permis d'obtenir à la fois la faveur du roi et d'être protégé. Et ça, ça vient de cette foi qu'il avait en Dieu. Et on pourrait se dire, waouh, Esdras, franchement, il peut se vanter finalement d'avoir cette foi. Et quand on lit dans Éphésiens 2:8 et dans Philippiens 1:29, on voit que cette foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite finalement, mais c'est une grâce qui est imméritée. Donc on ne devrait jamais se vanter d'avoir cette foi, parce que tout le mérite revient à Dieu. Et cette foi, justement, ça consiste à, comme Esdras, finalement, étudier, enseigner ce que nous avons appris et le transmettre à d'autres. Et c'est justement ce que dit Paul dans 2 Timothée 2, verset 2, quand il dit « Ce que tu as reçu de moi, enseigne-le à d'autres, qu'ils soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. » Et ce que dit aussi Jésus dans Matthieu 28, verset 18 à 20, avec Stéphane, on le fait réciter à chaque fois qu'on se voit, toutes les semaines, et cette idée de enseigner à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que je vous ai prescrit? Bah justement, d'enseigner ce que je... Voilà. C'est ce côté de je transmets quelque chose et quelqu'un qui a reçu, bah, il va le transmettre encore à quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est justement le thème de l'année 2017 que vous avez vu avec Pasteur, former et multiplier des disciples. C'est vraiment le thème de notre Église. Et on voit aussi dans ce texte que notre foi ne se vit pas seule. Esdras n'était pas tout seul. Bien sûr, il a eu cette conviction et finalement, il a cette position qui lui a permis d'être auprès du roi, mais il était accompagné, il était avec le peuple, il était soutenu par des collaborateurs, par des frères et sœurs qui étaient là pour partir avec lui. Et voilà, c'est une question, est-ce que notre foi, elle est exemplaire comme Esdras? Ça, c'est... Voilà, on peut prendre exemple sur lui. Et deuxièmement, tout comme Esdras, il a renoncé à sa position élevée pour aller enseigner son peuple, pour l'amener à la restauration. Et bah, de la même façon, Jésus-Christ, et on l'a lu tout à l'heure, Mike l'a lu dans Philippiens 2, versets 6 à 7, Jésus-Christ a renoncé à sa gloire céleste alors qu'il était au-dessus, il était avec Dieu. Alors que c'est comme Esdras qui était avec le roi, et ben, Jésus-Christ était avec Dieu le Père, et il a renoncé à sa gloire céleste pour s'incarner parmi nous, afin de nous enseigner, afin de nous amener à la restauration, afin de nous sauver. Il s'est fait homme, alors que lui était pleinement Dieu, il était pleinement couronné, il était très haut placé. Et il s'est aussi donné en sacrifice à la croix par amour pour nous. Et ça, c'est l'amour de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans cette... c'est ce qu'on peut voir dans cette première partie. Dans la deuxième partie, on a une lettre qui est assez longue, donc verset 11 au verset 26. On voit que le roi Artaxerxès, il écrit une lettre à Esdras qui se déroule en 3 temps. Donc dans le premier temps, il lui accorde une liste de faveurs. Alors quelles sont ces faveurs? Il permet à tous les volontaires du peuple d'Israël de faire partie du voyage, d'accompagner Esdras. Ensuite, deuxième chose, il envoie Esdras en mission d'inspection. Donc il dit, je t'envoie pour, en mission d'inspection de Juda et de Jérusalem, d'après la loi qui est entre tes mains. La loi de Dieu qui est entre tes mains. Il demande en plus à Esdras d'amener l'or et l'argent que lui-même, en tant que roi et avec ses conseillers, donc tiens, Esdras, non seulement je te libère, tu peux y aller, mais en plus, tu sais quoi, je vais te donner de l'or, je vais te donner de l'argent, et avec cet argent-là, tu vas acheter du bétail, donc tout ce qui est taureau, bélier, agneau, pour faire les offrandes au sein du temple. Donc non seulement, sûrement que les Israélites, ils allaient le faire aussi, mais le roi lui-même voulait participer et contribuer à ces sacrifices. Il fait aussi confiance à Esdras et à ses proches pour la gestion du reste de l'argent. Ok, tu as dépensé tout ça, bah, tout le reste, bah, garde-le pour toi, ça peut toujours servir pour le Seigneur. Et si en plus il manque des fonds, ça qui est vraiment fou, le roi lui permet de puiser dans le dépôt des trésors royaux. Donc ok, je t'ai donné de l'argent, ça se trouve, il reste de l'argent encore, mais tu peux l'utiliser. Et si en plus il manque de l'argent, bah, tu peux encore puiser dans mes richesses personnelles finalement. Donc ça, c'est première partie de la lettre. Deuxième partie de la lettre, il ordonne à tous les trésoriers de la région d'Israël de respecter toutes les demandes d'Esdras. Et il cite quelques limites à ne pas dépasser. Et quand on voit les limites, on se dit, mais c'est tellement énorme, c'est pas possible de dépasser ces limites, en fait. Et ce qui est intéressant, lorsqu'il dit qu'il faut respecter tout ce que Esdras dit, il dit qu'il faut respecter tous les ordres du Dieu du ciel. Il ne dit pas juste le Dieu d'Israël, il dit le Dieu du ciel. Donc il avait quelque part, ce roi, une conception d'un Dieu, je pense, unique. Et il avait aussi compris que le rôle du temple était central dans la relation du peuple d'Israël avec le Dieu du ciel. Il redoute aussi que la colère de Dieu vienne frapper son royaume et ses fils. Et il avait déjà cette crainte de Dieu aussi, ce roi. Et enfin, il demande de ne prélever aucun argent via des impôts, des taxes, de toute personne qui servait au temple. Et si on prend un peu du recul, je vous fais un peu réfléchir, mais est-ce que vous pensez à une situation où il y avait un roi, quelqu'un de très haut placé, qui, contrairement à Artaxerxès, a refusé de laisser le peuple s'en aller, d'être libéré? Donc le pharaon, bien sûr, pour ceux qui ont lu dans Exode, le pharaon, lui, il a refusé de laisser le peuple s'en aller, de le libérer. Mais au contraire, ici, Artaxerxès, il reconnaît la grandeur de Dieu, il le craint et il ne veut pas être soumis à sa colère. Tout le contraire de Pharaon qui était endurci dans Exode. Et probablement, parce que quand même, on pense qu'il y a, comme Esdras était haut placé, probablement qu'il avait une relation avec le roi qui était assez privilégié, et probablement aussi qu'il avait instruit le roi au sujet de ce qui était dans la loi. Et forcément, dans la loi, on parle de la création, on parle du Dieu du ciel, on parle des commandements que Dieu a donnés aussi, les 10 commandements. Et sûrement que le roi a été instruit à ces sujets-là par Esdras. Parce que Esdras, il n'avait pas juste gardé pour son peuple, mais finalement, il était aussi appelé à partager, à enseigner aussi les autres ce qu'il avait reçu. Troisièmement, donc, le roi écrit la lettre, il écrit à Esdras. Ensuite, il dit au trésorier de la région, attention, vous respectez ce que dit Esdras. Ensuite, il revient à Esdras. Et là, il lui donne quelques conseils. Il dit d'abord que je reconnais que la sagesse divine habite en toi. Je reconnais que Dieu t'a donné vraiment une sagesse particulière. Je la vois. Et lui demande de désigner des juges et des magistrats qui vont se charger de rendre la justice dans la région d'Israël. Et est-ce que, je ne sais pas si ça vous rappelle un conseil qu'aurait donné quelqu'un dans l'Ancien Testament aussi à un des représentants du peuple de Dieu. Pardon ? Le père de Moïse, c'est ça, le père de Moïse. Dans Exode 18, Jéthro, ça fait penser aussi à une blague de Timothée, mais je ne la raconterai pas. Jéthro, il donne un conseil et il suggère à Moïse, parce qu'en gros, le peuple était tellement nombreux, il dit, ce que je te conseille, c'est de choisir des hommes de confiance, des anciens, et en fait, pour tout ce qui est, on va dire, affaires ordinaires, etc., c'est eux qui vont être chargés de juger, en fait, si c'est qui a raison, etc. Et par contre, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est complexe, bah, ce sera à toi de le faire. Et Jéthro, ce n'était pas un juif, en fait. C'était quelqu'un qui n'était pas juif, mais qui avait, je pense qu'il était déiste, en tout cas, parce qu'il a laissé sa fille se marier avec Moïse. Mais il lui donne un conseil. Et finalement, ce n'était même pas quelqu'un du peuple de Dieu qui donnait ce conseil à Moïse, c'était son beau-père, finalement. Comme quoi les beaux-pères... Non, je rigole. Et là, pareil, de la même façon, Esdras, c'est via un roi qui n'est pas juif, qui ne fait pas forcément partie du peuple de Dieu, qui lui donne ce conseil et qui lui dit de désigner des personnes, parce que probablement qu'il ne pourrait pas faire tout ça tout seul. Donc il lui a dit, je te conseille, nomme des gens et délègue, sache déléguer ce que tu vas faire. Et en plus, ce qu'il demande aussi, ce roi, il demande de faire connaître les lois de Dieu à tous ceux qui les ignorent. Donc par là, on peut penser que ce n'est pas juste aux Juifs, finalement, mais c'est également à tous ceux qui n'étaient pas Juifs, qui peut-être étaient intéressés, et Esdras, sa mission, c'était aussi de leur enseigner la parole de Dieu. Et pour terminer, il dit que toute personne qui ne respecte pas la loi de Dieu et du roi sera condamnée avec quelques sanctions qui peuvent être diverses, mort, exil, amende ou prison. Alors, ce que nous, on peut en tirer par rapport à ça, notre foi en tant que chrétien, est-ce qu'elle est connue de tous? Notre foi en Jésus-Christ, est-ce que, de la même façon que Esdras, sa foi était connue du roi, est-ce que notre foi en tant que chrétien elle est connue de tous, de nos collègues, de nos amis, de notre entourage. On voit aussi que pas seulement le roi, mais aussi les conseillers étaient favorables à Esdras. Quand on voit Daniel, ça dépend. Il y a le roi, mais après, il y a les conseillers qui essaient de lui tendre des pièges. Mais là, à la fois le roi et à la fois les conseillers étaient favorables à Esdras. Et je vois aussi un parallèle entre la situation d'Esdras, finalement, et la situation qu'on a aujourd'hui. Parce que de la même façon que par sa grâce, je pense que Dieu a béni Esdras, avec lui les Israélites, et je pense encore qu'aujourd'hui, Dieu bénit l'Église, le peuple de Dieu, en surabondance, par Jésus. Et à l'époque, déjà, le rôle du temple était essentiel pour garantir une relation avec le Dieu d'Israël. C'était là où se faisaient les sacrifices d'expiation, vous vous rappelez, une fois par an, le souverain sacrificateur, il fait le sacrifice pour le pardon des péchés. Ce rôle était essentiel pour assurer une relation avec le Dieu d'Israël. Et de la même façon, Jésus, c'est notre temple. Il joue un rôle central dans notre relation avec Dieu à travers son sacrifice. Je vous invite aussi à réfléchir. Est-ce qu'on est comme Esdras? Est-ce que ça nous arrive peut-être de rencontrer dans notre vie des gens qui reconnaissent que la sagesse divine habite en nous? C'est-à-dire qu'ils voient notre foi et se disent « Mais franchement, ta foi, il y a un plus dans ta foi et ça me parle. » Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent la grandeur du Dieu du ciel? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément chrétiens, mais est-ce qu'ils arrivent déjà à travers votre témoignage, à travers votre foi exemplaire, est-ce qu'ils arrivent à voir que ouais, je peux croire qu'il y a un Dieu quand même. Je ne peux pas dire que c'est Dieu de la Bible, mais je pense qu'il y a quand même un Dieu qui est au-dessus de tout ça. Et est-ce qu'il y a des personnes qui, à travers notre contact, commencent à avoir aussi une crainte de Dieu comme Artaxerxès? Une autre application aussi, c'est est-ce que Dieu met sur notre chemin des Jéthro, des Artaxerxès, finalement des non-chrétiens qui nous respectent, qui sont attirés par notre foi et qui, en plus, vont nous donner des bons conseils qu'on peut adapter à nos situations. Alors, c'est des conseils qui ne vont pas s'opposer avec la parole de Dieu, bien sûr, parce que si ça s'oppose, bien sûr, on va les écouter. Mais des fois, je me dis, est-ce que dans notre vie, on a peut-être des collègues qui sont peut-être très, très intéressants ou des amis très, très intéressants, ils n'ont pas la foi, mais des fois, ils nous donnent des conseils, des principes qui, finalement, se révèlent être bibliques parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Et que finalement, ces conseils, c'est comme si Dieu nous parlait à travers eux, peut-être. Et enfin, est-ce que nous cherchons à faire connaître l'Évangile, la parole de Dieu? Esdras cherchait à enseigner cette parole. En tout cas, il était aussi invité par le roi à le faire. Est-ce que nous cherchons à faire connaître la parole de Dieu, l'Évangile, aux personnes qui ne le connaissent pas? Voilà, ça, c'est les applications que j'ai pu vraiment tirer de cette deuxième partie. Et enfin, une troisième partie, assez courte, deux versets. Esdras rend grâce à Dieu. Donc, Esdras, il loue le Seigneur. C'est son réflexe, c'est rendre grâce à Dieu. Il loue le Seigneur d'avoir rendu non seulement favorable le roi, mais aussi les conseillers, les princes, pour leur intérêt pour le temple de Dieu à Jérusalem. Et il remet tout le mérite à Dieu. Il aurait pu dire, non, c'est grâce à moi, parce que je suis bien placé, etc. Non, non seulement il rend grâce à Dieu pour l'intervention que Dieu a eue, pour ses bénédictions, mais en plus, il dit que ce mérite-là, il revient à Dieu, au lieu de s'attribuer à lui-même la gloire. Et en plus, le texte nous dit qu'il ressort fortifié de la main de Dieu qui repose sur lui. Et vous voyez qu'en un chapitre, on a trois fois ce terme, la main de Dieu qui repose sur lui. Et enfin, il rassemble les chefs d'Israël et c'est parti. Ils partent ensemble à Jérusalem. Ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui, c'est que lorsque nous vivons des succès dans notre vie, des bénédictions, c'est qu'en réalité, ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, c'est que la gloire aussi lui revient de droit. Et donc, comme Esdras, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour son intervention, pour sa bénédiction et aussi pour son mérite. Sachons remercier Dieu parce que nos bénédictions et même les personnes des fois non chrétiennes qui sont favorables à nous, comme Artaxerces, ça vient de lui, ça vient pas de nos propres ressources en fait. Et parfois nous nous en rendons pas toujours compte, mais la main de Dieu, sa grâce, elle repose sur nous. Elle est tellement surprenante parce que Dieu pourvoit et nous libère. Et je pense que cette pensée, elle devrait nous fortifier aussi dans notre foi, de la même façon que Esdras était fortifié par la grâce de Dieu qui agissait à travers le roi, de la même façon, nous pouvons être fortifiés par ce que Dieu fait dans notre vie. Et mieux encore, on voit dans Psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » La grâce de Dieu, c'est possible d'avoir tous les jours de ma vie. Et Matthieu 28, verset 20, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on voit ainsi que la grâce de Dieu, elle est pour toujours, éternellement avec nous, grâce au Saint-Esprit qui vit en nous, et grâce aussi au sacrifice de Jésus à la croix. Alors, aujourd'hui, nous ne vivons pas en moins 458 avant Jésus-Christ. Nous ne sommes pas israélites. Cependant, 2475 ans plus tard, eh bien, nous avons vu à travers ce passage qu'on pouvait s'inspirer vraiment de l'exemple d'Esdras, qui était un serviteur qui était humble et obéissant. On a vu que Esdras était gardé par la main de Dieu, par sa grâce qui est tellement surprenante. Et qui aurait cru qu'un roi non-juif allait être autant favorable au peuple de Dieu ? Et justement, cette grâce, elle va fortifier Esdras et tout le peuple avec lui, et va lui donner de la force en vue de son voyage qui ne fait alors que commencer. Et nous alors, nous qui sommes le peuple de Dieu, est-ce que nous ressortirons encouragés, fortifiés par la grâce de Dieu de ce culte ? Est-ce que nous serons prêts à le servir de tout notre être, comme Esdras, en vue de la suite de notre voyage sur la terre ? Je vous invite à prier. C'est entre Dieu, nous te remercions encore, parce que ta grâce est tellement surprenante. C'est par ta grâce seule que nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés, que nous avons de nouveau cette relation avec toi, Seigneur, cette vie éternelle. Et Seigneur, merci parce que le mérite ne nous revient pas du tout, Seigneur. Merci parce que tout le mérite revient à toi, Seigneur. Et si nous vivons encore sur cette terre, c'est parce que tu nous as fait grâce, Seigneur. Et c'est aussi pour te rendre gloire. Alors, Seigneur, utilise-nous. Peut-être qu'on a dans ce début d'année, Seigneur, on a fait peut-être le bilan de l'année passée. Peut-être qu'on est encore dans nos résolutions. On se dit, mais qu'est-ce que j'aimerais vivre encore avec toi, Seigneur ? Et Seigneur, guide-nous vraiment pour que nous puissions faire des engagements, des pas de foi, marcher par la foi, avoir une foi exemplaire comme Esdras, Seigneur, afin de pouvoir mettre en pratique ce que nous vivons, ce que nous lisons, et pas seulement juste le garder pour nous-mêmes, mais vraiment mettre en pratique et le partager. Parce que, Seigneur, tu vois que ce monde va passer, mais ta parole ne passera pas. Et Seigneur, c'est notre rôle en tant que chrétiens de partager ce que nous avons reçu. Donne-nous la force. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la force afin que nous puissions agir comme toi. Tu veux que nous agissions, Seigneur. Je te prie en ce nom de Jésus-Christ. Amen.